Ce show dédié par une certaine personne qui ne s'est pas identifiée pour la santé à tous ses proches, notamment pour sa mère, Simcha Bat Sara Bezrat Hashem. Amen. Alors la question de Rouven.
Alors, pourquoi Hashem a eu besoin de regarder dans la Torah pour créer le monde?
Ok, tu as encore une deuxième question après.
Et aussi, pourquoi du jour au lendemain, il s'est dit... bon, allez, c'est l'heure de créer le monde, je vais prendre la Torah, je vais...
Ok, donc Dieu est infini, il a toujours été, sera toujours, et sa Torah est comme lui. Et sa Torah, c'est sa pensée. Alors, tu poses deux questions. Pourquoi est-ce que c'est écrit qu'il a pris la Torah, il a regardé la Torah, il a créé le monde? Qu'il le fasse tout de suite, d'accord, directement, pour qu'on nous raconte qu'il s'est passé par deux étapes. Deuxième question, tu dis, alors lui est infini, il n'y a rien, il y a lui avec lui, un beau jour, il dit, allez, je crée le monde, il crée le monde. Qu'est-ce qui s'est passé qu'un beau jour, tout d'un coup, ça lui a pris comme ça de créer le monde? Bon.
Et après des milliards d'années, on est venu.
Après des milliards d'années, après on est venu, et après de nouveau le monde s'arrête, et des milliards d'années, on n'est plus là. Enfin, ce monde n'existe plus. Donc, on va savoir qu'est-ce qu'on peut répondre à ce propos. Alors, au niveau d'abord la première question, pourquoi Dieu il a regardé la Torah, après il a créé le monde? Alors, comme je dis dans la question, Dieu et sa pensée font un. Comme ça écrit Maïmonide, pas croire qu'il y a lui et sa pensée comme chez nous. Mais lui et sa pensée font un. C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre, nous, parce qu'on n'est pas Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est très délicat. Hein? Comme dit le prophète, vos pensées ne sont pas les miennes. Des gens font des fois des projections de eux-mêmes sur Dieu. Mais ce n'est pas adapté. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Et peut-être, parce que je pensais répondre à la deuxième question en passant, je vais donner un exemple. Quelqu'un agit sur Terre. Pourquoi ? Dis-moi une action que tu peux faire.
Tu vas acheter du pain.
Tu vas acheter du pain. Pourquoi tu achètes du pain?
Pour manger.
Pour manger. Pourquoi tu veux manger?
Pour nourrir mon corps.
Non, tu ne vas pas manger pour nourrir ton corps. Tu veux manger parce que tu as faim. Pourquoi tu as faim? Hachem, la nature, on va dire comme ça, d'accord. Hachem en place qu'un système que si tu ne te nourris pas longtemps, alors tu commences à avoir faim. Donc, tu as la faim, et à cause de la faim, tu vas aller manger. Maintenant, l'action, c'est manger. La faim, on appelle ça le stimulus. C'est la raison qui va provoquer l'action. D'accord? Maintenant, allez, on va faire un petit jeu philosophique. Pourquoi tu as faim? Pourquoi quand tu ne manges pas un certain temps, tu as faim?
C'est le corps qui prévient. Il dit, oh là là, tu manges vite, vite, vite.
C'est vrai, le corps est comme ça. Pourquoi le corps est comme ça?
Parce que le corps, il connaît ses limites.
C'est le corps qui connaît les limites. Pourquoi le corps, lorsqu'il ne mange pas un certain temps, il a faim?
Il n'a plus d'énergie, c'est épuisé, c'est comme une voiture.
Pourquoi, lorsqu'il n'a plus d'énergie, il a faim? Bon, je vais t'aider, sinon on va rester jusqu'à demain. Hein. Alors, un biologiste dira, bah, c'est comme ça, la nature. Et un croyant dira, bah, c'est comme ça, c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. D'accord? Pourquoi Dieu a créé comme ça? Parce que Dieu voulait que la personne ne meure pas. Quelqu'un étudie la Torah maintenant, c'est plus courant chez les Amérames, ils sont tellement absorbés par la Torah, ils peuvent oublier complètement de manger, et ils peuvent mourir de faim, d'accord? Alors il a fait un truc que la faim, probablement, soit tellement grande qu'il s'arrête d'étudier pour aller manger, par exemple, d'accord? Autre exemple, parle-moi d'une autre action. Vas-y, Ilan, une action, n'importe laquelle.
Marcher.
Marcher, mais marcher, enfin bon, d'accord. Pourquoi tu marches?
Pour aller quelque part.
Pour aller quelque part. Pourquoi, pour aller quelque part, il faut marcher?
C'est un objet.
Pourquoi un objet?
Comme ça, c'est le corps.
C'est le corps.
C'est mauvais, ça.
Voilà, on ne peut pas voler. Ouais. D'accord? Donc, de nouveau, même réponse. Un biologiste te dira, bah, c'est comme ça la nature. Tu n'es pas un oiseau. Tu n'es pas une fusée. Pour aller à quelque part, tu marches. D'accord? Ou moins, tu marches jusque dans la voiture. Après, tu vas jusqu'en voiture, jusqu'à l'endroit. Mais sans marcher, ça ne marche pas. On peut le dire, d'accord? Sans marcher, ça ne marche pas. Maintenant, un croyant dira, bah, c'est Dieu qui a créé comme ça, l'être humain. C'est comme ça pour tout dans le monde. Chaque chose a une raison qui provoque l'action. C'est un stimulus qui provoque l'action. Maintenant, parlons de Dieu. Dieu a créé le monde. Pourquoi? On va dire qu'il avait une raison. D'accord? Maintenant, qui est plus grand? Le stimulus ou l'action que provoque le stimulus?
L'action.
L'action la plus grande ou celui, la chose qui a provoqué l'action. La chose, c'est qu'elle a provoqué. Elle a la force de provoquer l'action. L'action, elle n'a pas la force de provoquer le stimulus. Le stimulus, c'est lui qui produit, qui est l'action. Donc, il est plus grand. Donc, si Dieu a voulu créer le monde pour une raison X, qui est plus grand, Dieu ou la raison X ?
La raison X.
La raison X. Alors, c'est pas très haut. C'est-à-dire donc que Dieu, il est parfait, il est grand. Mais il a une raison X qui est plus haute que lui, qui l'a obligé, qui l'a motivé, qui l'a amené à faire l'action de créer le monde. Alors quoi, il y a une chose qui est plus haute que Dieu ? Oui, raison X, et on va l'appeler. Oh, fantastique. Bon, allons plus loin. Pourquoi la raison X, elle existe ? La raison X qui va provoquer qu'Hachem crée le monde, eh ben, elle existe. Maintenant, qui a fait qu'elle existe ?
C'est lui,
c'est un monde. Hein ?
Issu d'un manque.
Elle a une bonne raison qui l'a provoqué de faire ça, de vouloir qu'il y ait un monde, de vouloir que Dieu crée le monde. La raison X a voulu que Dieu crée le monde. La raison X qui a voulu cela, bien, une raison qui a provoqué cette volonté. Qu'est-ce que c'est ? On l'appelle la raison Y, ou X1. D'accord ? Donc c'est très intéressant, tu as Dieu, puis au-dessus tu as la raison X, au-dessus tu as raison X1. Dans raison X1, elle a voulu que raison X veuille que Dieu crée le monde. Pourquoi la raison X1 ? La raison X2 a voulu que la raison X1 veuille que Dieu crée le monde. Elle avait une raison. Quelle raison ? La raison X3. Et on n'en finit pas. Hein ? On n'en finit pas. Alors, où est le problème ici ? C'est que tu fais une projection, comme tu fonctionnes toi, parce que toi tu agis seulement s'il y a une raison, tu manges parce que tu as faim, tu marches parce que tu dois aller là-bas, et c'est comme ça pour tout. Il n'y a rien qui se fait sans raison. Alors on projette ça, ce schéma, sur Dieu. On dit, si Dieu maintenant il a voulu, il y a aussi une raison qui a fait. Mais c'est faux. Vos pensées ne sont pas les miennes. Moi, je ne fonctionne pas comme vous. Parce que s'il y a une raison qui provoque que moi je veux, alors la raison est plus forte que moi. Or, il n'y a rien de plus fort que moi. Ni Rishon, ni Aharon. Je suis le premier, je suis le dernier. J'étais toujours et je serai toujours. Il n'y a personne avant moi, personne après, personne au-dessus, rien. Qu'en bas, qu'au-dessous de moi. Et si je veux le dessous, il existe. Si je ne veux pas, il n'existe plus. Et si le dessous va crier très fort, on ne veut plus que tu sois là, je reste quand même. D'accord ? Donc il n'y a pas de raison qui provoque Hachem. Alors pourquoi Hachem il veut ? Réponse, parce qu'il veut. Et c'est la raison des raisons. Il n'y a pas de raison plus forte. Et tout ça pour vous dire que Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne. Alors ta question, qu'est-ce que c'était ? Pour j'aurai maintenant sur mes...
La question c'était pourquoi Hachem il a eu besoin de...
Ah. Alors quand on dit maintenant qu'Hachem il regarde la Torah et crée le monde... Ça signifie pas que qu'il y a deux choses, Dieu et la Torah. Parce que la Torah de Dieu, c'est sa pensée, et lui, sa pensée font un. Attends, nous, on ne comprend pas. Parce que comme j'ai dit, chez nous, la pensée, il y a moi et ma pensée, mais c'est deux choses différentes. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Et je donne l'exemple maintenant qu'on ne peut pas faire des projections de comment nous, on fonctionne sur Hachem. Donc Dieu et sa pensée font un. Et un beau jour, si on peut s'exprimer ainsi, il a voulu que le monde existe. Comment ça s'est fait ? On ne sait pas, mais effectivement, ça s'est fait par la pensée de Dieu. Je dirais même plus que si on peut parler ainsi, je ne sais pas si on peut, parce que chez Dieu, tout est un. Alors on parle d'abord d'une volonté, qui après s'exprime en pensée, et après en réalité. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Dieu dit... Alors, Ramban, il explique c'est quoi Dieu dit. Il a une bouche. Du coup, on entend sa parole qui parle dans l'espace intersidéral. Il n'y a pas encore d'espace, ni inter, ni sidéral. Il n'y a rien. Alors, c'est quoi Dieu dit ? Alors, ça veut dire qu'il y a un passage de ce qui est virtuel à réel. Il y a un passage de la pensée à la réalité. Ça s'appelle la création ou la parole de Dieu. D'accord ? Bon, ce sont des choses extrêmement profondes. En conclusion, donc, effectivement, Hachem, tu poses la question, pourquoi il ne fait pas d'un coup ? La réponse, il fait d'un coup. Et quand on dit que c'est passé par, d'abord, volonté, pensée, c'est une façon de parler à nous. Mais chez lui, il est un, donc ça se fait comme ça. C'est par lui a fait. Chez lui, aller voir une volonté, une pensée et un aboutissement, on ne peut pas voir. Parce que Hachem, il est un, il ne fonctionne pas comme nous, on comprend. Deuxième question, même réponse aussi. Alors, Hachem est infini, puis un beau jour il crée le monde. Oui, Mais vu qu'on est dans une réalité qui n'est pas la nôtre, où il n'y a même pas le temps, donc on ne peut pas parler ainsi qu'il y a eu le temps, puis un beau jour, il décide de créer, puis un beau jour, le monde va être détruit, et après, ça continue. D'autant plus que je vous rappelle qu'il y a certains avis qui disent, pas tout le monde d'accord là-dessus, certains avis, voir le Ramban à la fin de Parashat Behar, ainsi que Ibn Ezra aussi là-bas. Et comme je dis aussi dernièrement, il semble qu'il y a une source dans la Gemara aussi, dans le traité Sanhedrin, page 96 ou 97, d'accord, qu'on sait qu'il y a 6000 ans d'histoire, après un an 6000 de détruit le monde, et il y a 1000 ans où le monde est détruit, le monde physique. Et après, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup disent c'est fini. Après, on monte, nous on monte dans l'an 8000, 9000, 10000, pour l'infini, on se rapproche d'Hachem. Il y a un autre avis, qui est cité donc par le Ramban, enfin le Parashat Behar, comme j'ai dit, qu'après les 1000 ans, il y a création d'un nouveau monde, de nouveau. Et comme ça, 49 fois, 40 cycles de 6000 ans plus un 7e millénaire. Pas tout le monde est d'accord là-dessus, et quand il y a des gens à qui on dit ça, ils perdent la tête, d'accord? Donc on rentre dans des choses qui sont très 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 profondes, et le Ramban il en parle à demi-mot, d'accord? C'est ce que je vous fais maintenant, c'est l'explication, après que quelqu'un relit, comprend qu'est-ce que vous lui dire, et dit que c'est une chose très secrète, et voilà, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment des secrets qu'on ne connaît pas. Le principe est le suivant, quand on parle de Dieu, il faut prendre des précautions, parce qu'on ne peut pas parler de la même réalité que nous connaissons. Donc comment ça se passe dans le monde de l'infini? Dans le monde au-dessus du temps, dans le monde de la pensée d'Hachem, peut-être après la mort, on le saura mieux. On raconte qu'il y avait deux très grands sages d'Israël qui ont décidé, le premier, il y avait beaucoup de questions, d'accord, sur le pourquoi, le comment, le premier qui meurt, il revient à l'autre en rêve pour répondre aux questions. Et un des premiers est mort, il est monté dans les mondes, arrivé au monde où la banque pose toutes les questions. Alors il revient en rêve, celui qui est encore vivant, lui dit, écoute, je suis arrivé là-bas, et là, il n'y a plus aucune question. Alors, je ne vais pas te répondre, mais sache qu'il n'y a plus aucune question. Voilà. Donc, quand on sera là-bas, dans Hachem, après 120 ans, ou peut-être avant, si ma chère vient, il n'y aura plus de questions. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.